Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. En Syrie, des centaines de civils tentent de fuir à la ville d'Afrin par crainte d'un assaut des forces turques. Et à l'est de Damas, la ville de Douma ne sait plus comment faire face à l'afflux des familles fuyant les bombardements. La robe noire d'Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany's, c'était lui. Le créateur Hubert de Givenchy s'est éteint à 91 ans. Il avait présenté sa dernière collection de haute couture en 1995. Annie Girardin tente le dialogue à Mayotte. La ministre des Outre-mer promet des efforts supplémentaires pour la sécurité et veut renforcer la lutte contre l'immigration clandestine. Sur quoi repose la compétitivité du constructeur Renault? Sur la marque low-cost Dacia et sur des coûts de productivité réduits. Reportage au Maroc dans l'usine Renault de Tanger qui produit 340 000 véhicules par an. Le secrétaire général de l'ONU appelle tous les États à faire en sorte que la trêve soit appliquée dans la Ghouta orientale. Il est urgent de permettre des évacuations humanitaires, insiste Antonio Guterres devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Un projet américain de résolution circule. Il réclame une suspension immédiate des hostilités pour une période de 30 jours. Et si le Conseil de sécurité devait être paralysé, les États-Unis se disent prêts à agir. Pour la France, c'est surtout la Russie qui peut faire arrêter le bain de sang en Syrie. La Russie explique l'ambassadeur français à l'ONU, François Delattre, a la capacité de convaincre le régime par toutes les pressions nécessaires d'arrêter cette offensive terrestre et aérienne. Depuis l'Inde, où il achevait sa visite d'État, Emmanuel Macron a lui aussi évoqué la situation en Syrie et notamment la question du recours aux armes chimiques par le régime. Le chef de l'État, piqué au vif par les critiques de l'ancien président François Hollande, exprimé dans un entretien au journal Le Monde. Écoutez la réponse d'Emmanuel Macron.
Le jour où nous aurons établi en particulier avec nos partenaires américains. La preuve irréfutable que cette ligne rouge est franchie, c'est-à-dire qu'il y a l'utilisation létale d'armes chimiques, alors nous ferons ce que d'ailleurs il y a quelques mois les États-Unis ont fait eux-mêmes, c'est-à-dire nous nous mettrions en situation de procéder à des frappes ciblées sur les endroits d'où proviennent les charges ainsi identifiées. Ce que je dis simplement, c'est que nous croisons les informations avec nos alliés, mais pour être très explicite, nous avons la capacité autonome de procéder à ces frappes et à leur identification si besoin était. Et donc, si et le jour où ces informations seront établies et je le déciderai, nous pourrons y procéder. Pour ce qui est de la Russie, la France, depuis le mois de mai dernier, a une politique constante et cohérente, sans connivence, mais en cherchant à être efficace et donc en restaurant un dialogue qui installe le rapport de force et qui cherche à obtenir des avancées. Maintenant, il faut être très clair. Quelle est l'étape qui suit? L'étape qui suit, si vous voulez faire peur ou intervenir à des puissances qui décident le choix militaire, c'est d'intervenir militairement. La France n'interviendra pas militairement sur le sol en Syrie, je vous le dis très fermement. Et je crois que beaucoup de gens qui donnent parfois des leçons ont parfois eux-mêmes décidé la même chose, à juste titre.
Le président Emmanuel Macron à Afrin, dans le nord de la Syrie, l'armée turque gagne du terrain. Elle est désormais aux portes de la ville d'Afrin, qu'elle espère reprendre aux milices kurdes considérées comme terroristes par Ankara. Et des centaines de civils fuient cette localité avant l'assaut final des forces turques. Les précisions de Franck Madvan, notre envoyé spécial dans la région.
De longues files de voitures quittant la ville d'Afrin. Les images de cette fuite circulent sur les réseaux sociaux. Les habitants d'Afrin redoutent un assaut imminent de l'armée turque. Les Turcs et leurs alliés rebelles syriens ont avancé très vite ces derniers jours. Ils occupent la plupart des villages entourant Afrin. Les milices kurdes ne contrôlent plus qu'une petite zone au sud-est de l'enclave par laquelle les civils tentent de s'échapper. Les médias turcs pro-Erdogan défendent à longueur de journée l'opération Rameau d'Olivier contre Afrin. Ils adoptent le discours officiel et considère les combattants kurdes YPG comme des terroristes liés au PKK, le parti séparatiste kurde. Aujourd'hui, ces médias accusent les Kurdes de retenir les habitants pour s'en servir de boucliers humains. Afrin est privée d'eau, cernée par les bombardements turcs. L'armée turque tient les médias à distance. Elle est accusée par des ONG d'avoir tué plus de 200 civils lors de cette opération.
En 7 ans de conflit, la guerre en Syrie aurait fait 511 000 morts selon la dernière estimation de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En Colombie, c'est la droite opposée à l'accord de paix avec les FARC qui est arrivée en tête des élections législatives. Les anciens rebelles participaient hier pour la première fois à un scrutin depuis le cessez-le-feu signé avec le gouvernement en 2016 et leur score est très faible, Nabila Hamel.
Oui, les résultats ne sont pas toujours définitifs et officiels, mais si la tendance ne devrait pas changer. Le premier point est que l'accord de paix signé par le gouvernement et les FARC n'a pas bénéficié, vous le disiez, à l'ex-guérilla pour son test d'entrée dans la vie politique du pays. Pour ce rendez-vous de la normalisation, le résultat est assez maigre, à peine 10 sièges remportés sur les 280 du nouveau Parlement, même si les FARC espéraient plus en présentant 74 candidats. L'ex-guérilla met ce score sur le compte d'une campagne particulièrement virulente contre elle de la part de ceux qui n'ont jamais voulu accepter l'accord de paix. Elle a dû annuler ses meetings publics. Dans l'autre camp, le parti de l'ancien président Alvaro Uribe a obtenu le plus grand nombre de voix et comptera 19 sièges à la Chambre haute et 33 à l'Assemblée. Alors ce n'est pas la majorité, mais son parti, qui était contre la réconciliation, pourrait, avec des alliances au Congrès, essayer de peser sur l'élection présidentielle, dont le premier tour est prévu le 27 mai, et puis chercher à bloquer le reste, en tout cas, de la mise en application de l'accord de paix, puisqu'il reste certains points à mettre en œuvre, notamment le volet sur la justice à appliquer aux anciens guerrieros. Mais on n'en est pas encore là pour le moment.
Nabila Hamel, accord signé à Berlin. Le camp conservateur et les sociodémocrates ont signé le contrat de coalition qui les lie pour les 4 prochaines années. Le gouvernement va pouvoir être constitué et Angela Merkel peut penser à l'avenir. Elle va prochainement se rendre à Paris pour préparer le Conseil européen de mars avec Emmanuel Macron. Parvenir à l'essence même d'un manteau, d'une robe ou d'un tailleur, c'était le souci constant d'Hubert de Givenchy. Le créateur de mode s'est éteint un samedi, dans son sommeil, il avait 91 ans. Hubert de Givenchy s'était imposé comme le couturier du chic décontracté. Et tous ceux qui lui rendent hommage aujourd'hui, Cécile de Kervas-Douai, soulignent l'élégance du créateur, comme de ses tenues.
Oui, pourtant, lors de la présentation de sa toute première collection en 1953, la profession l'avait surnommé l'enfant terrible de la couture. Parce que dans la maison qu'il vient donc de fonder à l'époque, il met en vedette une femme rousse, à la silhouette extra fine, vêtue d'une blouse en dentelle anglaise. Cette blouse, dite Bettina, sera la première d'une série de blouses inspirées des chemises d'hommes. Car ce que invente ce jeune couturier, qui n'a alors que 25 ans, ce sont des vêtements pour femmes que l'on peut séparer en deux pièces et rassembler selon ses goûts. À l'époque où les femmes sont encore corsetées dans des vêtements compliqués, c'est ce qui lui vaut sa réputation de modernité. Largement influencé par son mentor de toujours, Cristobal Balenciaga, il invente donc des vêtements chics, mais confortable, qui n'écrase pas le corps des femmes à l'image de sa fameuse petite robe noire. C'est cette réputation qui lui fait d'ailleurs rencontrer très tôt Audrey Hepburn. Dans cette archive que vous allez entendre de Lina qui date de 1998, il raconte à Frédéric Mitterrand comment il a cru au départ que Catherine Hepburn venait lui rendre visite avant de finalement rencontrer Audrey. Audrey qui lui a demandé tout de suite d'être son couturier pour ses films et à la ville. Et il raconte donc comment la comédienne est finalement devenue sa muse.
Quand on disait, c'est vous qui avez fait ça, c'est pas vrai du tout. Je le dis sincèrement, c'est elle. Pourquoi ? Parce qu'elle arrivait à donner, on lui mettait une robe sur elle, et elle bougeait, elle choisissait, elle ajoutait. Elle disait, tu sais, là, il me faut un petit chapeau comme ça. Je dis, mais non, tu seras ridicule avec ça. Non, parce que ce petit chapeau apportera ce qui est nécessaire dans le film. Alors, c'était un travail, et puis, petit à petit, notre amitié. J'ai voyagé avec elle, j'ai découvert Hollywood grâce à elle, j'ai suivi les naissances, je veux dire, des enfants. Enfin, voilà, si je dirais Doris était sa sœur, j'étais peut-être son grand frère.
Et Audrey Hepburn ne sera pas la seule à s'attacher aux couturiers. Il y aura aussi Jackie Kennedy, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Jeanne Moreau et puis des milliers d'anonymes, puisqu'Hubert, afin de Givenchy, de son vrai nom, sera l'un des premiers à se lancer dans le prêt-à-porter. Il sera aussi l'un des premiers à faire défiler des femmes noires avant de vendre sa maison à LVMH en 1988 et de prendre un temps la direction de Christie's France. Car toute la fin de sa vie, celui que sa famille voulait notaire, a pu la consacrer en toute discrétion à son autre grande passion, sa collection d'œuvres d'art.
Cécile de Kervas-Douai. Sans transition, nous partons à Mayotte, où la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est arrivée ce matin. L'île est en ébullition. Manifestations et blocages se succèdent depuis 3 semaines pour dénoncer les conditions de vie, le chômage de masse et surtout l'insécurité. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir.
Annick Girardin a annoncé quelques mesures supplémentaires, comme le maintien jusqu'à la fin de l'année scolaire d'un escadron de gendarmerie mobile arrivé en renfort. Mais ça paraît dérisoire au regard de la situation et des attentes exprimées par les manifestants.
Oui, il y a ces 60 gendarmes mobiles qui resteront jusqu'à la fin de l'année scolaire, a dit la ministre, plus quelques dizaines d'autres policiers et gendarmes qui seront déployés d'ici l'été. Elle a aussi annoncé la création d'un groupe chargé de réfléchir au statut d'extraterritorialité de la maternité de Mayotte. Et puis elle veut renforcer la coopération avec les autorités comoriennes pour lutter contre l'immigration clandestine. Tout ça paraît assez cosmétique, d'autant qu'Annick Girardin a avoué qu'elle était là avant tout pour dialoguer.
Ne loupons pas ce rendez-vous du dialogue, ne loupons pas ce rendez-vous de la main tendue, ne loupons pas ce rendez-vous d'une confiance possible entre nous qui nous permettra d'apporter des réponses aux Mahorais et aux Mahoraises.
Le dialogue avant tout pour beaucoup de Mahorais après 3 semaines de crise n'est pas suffisant. Certains l'ont donc interpellé de façon assez musclée.
Avez-vous le mandat interministériel pour négocier à ce que nous ne trouvons pas la légitimité nécessaire pour discuter avec un interlocuteur qui ne l'est pas?
Moi, je suis venue ici avec une légitimité. Je suis la ministre des Outre-mer, d'accord? Donc, je n'accepterai pas certaines remises en question de ma légitimité.
Le problème de Mayotte, c'est la délinquance qui se développe à toute vitesse. Ça, c'est en lien avec une immigration presque incontrôlable en provenance des Comores. Ils sont des dizaines de milliers à débarquer chaque année. Et le problème est presque insoluble, nous explique l'économiste spécialiste de l'Outre-mer, Olivier Sudry.
Mayotte a énormément de retard hein, par rapport à la métropole d'un point de vue économique. Et il y a un certain paradoxe, c'est-à-dire que Mayotte effectivement est pauvre, hein, 4 fois plus pauvre que la moyenne nationale, mais Mayotte est riche au regard des Comores. Et donc Mayotte a besoin de la solidarité nationale pour se développer, pour financer des infrastructures, des routes, des écoles, hein, des bâtiments publics. Mais d'un autre côté, à chaque fois que Mayotte se développe, elle attire encore plus des populations beaucoup plus pauvres venant des Comores.
La semaine dernière, le Premier ministre Édouard Philippe a déclaré qu'il était prêt à discuter de tout et à tout mettre sur la table. Le plus urgent semble quand même d'apaiser les esprits et pour ça, dans un premier temps, de répondre aux problèmes d'insécurité.
Stéphane Robert, la prise en charge des mineurs étrangers isolés est de plus en plus lourde pour les départements. L'an dernier, 25 000 jeunes ont été pris en charge par la protection de l'enfance. Les départements estiment avoir déboursé plus d'1 milliard d'euros et ils appellent l'État à l'aide, d'autant que les mineurs étrangers continuent d'affluer. Une délégation de l'Assemblée des départements de France a été reçue à Matignon aujourd'hui. Pour l'instant, pas d'accord. On est encore loin des solutions définitives, a constaté le président de l'AFD, Dominique Bussereau, à l'issue de cette réunion. Bonsoir Charlotte Lalanne.
Bonsoir Aurélie.
Alors, il doit tout de même y avoir une réforme à un moment donné. Pour le moment, 2 scénarios sont sur la table. Soit l'État augmente sa participation financière, soit il y a transfert de compétences à l'État en matière d'hébergement et d'évaluation des mineurs. Mais cette deuxième hypothèse suscite des inquiétudes.
Oui, des réserves exprimées dès décembre dernier par le défenseur des droits, Jacques Toubon, dans une audition destinée justement à la rédaction du rapport débattu aujourd'hui à Matignon. Il souligne le risque d'un changement de paradigme. On passerait, dit-il, d'une présomption de minorité selon laquelle ces jeunes sont d'abord considérés comme des enfants à protéger à un dispositif de droit commun où ils seraient avant tout regardés comme des étrangers et donc plus vulnérables. Un danger d'autant plus important dans la perspective du durcissement des procédures pour les étrangers et les demandeurs d'asile, durcissement prévu par la loi Asile et immigration. Le défenseur des droits estime ainsi que la compétence des départements est indispensable pour le respect des droits de l'enfant. Un avis partagé par Catherine Delanoë-Daoud, avocate au barreau de Paris, co-responsable du pôle mineurs étrangers à Paris. Elle estime que confier des jeunes mineurs à l'État sous prétexte qu'ils sont étrangers serait même discriminatoire au regard de la loi française.
D'après les textes français, tout enfant, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa situation administrative, doit être pris en charge par le dispositif de l'aide sociale à l'enfance, ça veut dire par le département en France, c'est comme ça que c'est géré. Si on parle de l'État, ça veut dire qu'on parle d'immigration et d'étrangers, on ne parle plus d'enfants. Ça change que, par exemple, on a pu en avoir une illustration très concrète lors du démantèlement de la jungle de Calais, lorsqu'on a créé en fin 2016 des centres d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers. Eh bien, on a vu que des centres avaient été ouverts de façon très rapide, n'étaient absolument pas bien organisé pour des jeunes. Il n'y avait pas d'éducateurs, il n'y avait pas de personnel bien formé. Et on a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire que les 2/3 ont disparu, ont fugué, il y a eu des gestes d'autodestruction, des scarifications, des grèves de la faim. Ça a été une vraie catastrophe, cette gestion par l'État des mineurs isolés étrangers.
Alors ce transfert de compétences à l'État sera-t-il le scénario retenu? Vous l'avez dit, rien n'est tranché pour l'heure. Tout juste, nous dit-on que des négociations sont toujours en cours.
Charlotte Lalanne. Si les partis de gauche voulaient bien se donner la main, Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, lance un appel à l'unité politique avant le 22 mars prochain et les manifestations, notamment des syndicats de la SNCF et de la fonction publique. Un appel à une action commune qui réunirait Olivier Besancenot, Benoît Hamon, Noël Mamère ou un autre dirigeant écologiste et Jean-Luc Mélenchon s'il le souhaite, selon les mots du secrétaire national du PC. Olivier D'Artigol, porte-parole du parti, espère une initiative commune.
Aujourd'hui, sur un tel sujet, dont on sent très bien que c'est un rendez-vous très important de contre-offensive face à l'exécutif, l'unité politique, elle devrait ne poser aucun problème, puisque nous sommes d'accord sur l'essentiel. Et donc, la proposition de Pierre, c'est que si, d'ici le 22, sous une forme déterminée, ou lors de la journée de mobilisation, cette unité politique peut s'incarner sous la forme d'une rencontre, d'un texte commun, d'une photo. Je sais pas, ça peut être prendre un verre dans une brasserie, un café, et échanger les uns les autres sur la bataille à mener ensemble sur ce sujet-là. En tout cas, je suis certain que ce moment-là, il serait très important dans la contre-offensive face au projet du gouvernement, parce que ça donnerait un peu de baume au cœur à toutes celles et ceux qui voient l'unité syndicale se constituer et qui diraient ben, c'est bien si toutes ces personnalités politiques, elles disent ensemble au même moment la même chose.
Le communiste Olivier Dartigolle au micro de Sophie Delpont. Au lendemain du Salon international de l'automobile de Genève, malgré marqué par la progression des voitures électriques et autonomes, gros plan sur Renault, devenu cette année le premier constructeur mondial devant Volkswagen et Toyota. Un succès lié en grande partie à sa marque low cost, Dacia, qui représente aujourd'hui un tiers de ses ventes. La réussite de ces véhicules passe bien sûr par des prix très attractifs, mais aussi par un schéma industriel et des coûts de productivité réduits par rapport à la France. Vous avez pu le constaté, Hakim Kasmi, en vous rendant au Maroc où vous avez visité l'usine Renault de Tanger.
De l'emboutissage à l'assemblage final, l'usine Renault de Tanger produit 340 000 véhicules par an. C'est l'un des plus gros sites étrangers du constructeur. Ici, plus de 7 000 ouvriers travaillent en 3-8 pour assembler 4 modèles de la gamme Dacia qui vont des véhicules utilitaires aux particuliers. Jean-François Le Gall, le directeur de l'usine.
On fait des véhicules qui sont compétitifs. Surtout parce que c'est des véhicules de la gamme Dacia ou la gamme Global Access. C'est ça qui fait la compétitivité. Et on bénéficie à 100% de la force du manufacturing de Renault. C'est-à-dire que l'ensemble de nos usines, qu'elles fabriquent des Renault, des Dacia, toutes les marques du groupe, suivent un standard, un process extrêmement standardisé qui est efficace, qui est le même dans toutes les usines et qui nous permet justement d'avoir au final l'efficacité industrielle.
Voilà, contrôle visuel des soudures Migman.
Pour être efficace, Renault, qui a ouvert son usine il y a 5 ans, doit former lui-même ses opérateurs qui ne sont pas toujours les spécialistes du secteur. C'est le rôle de l'IFTA, l'Institut de formation des métiers de l'automobile, financé par des fonds publics et privés. Il prépare aux métiers de la soudure, de l'électricité ou encore de la manutention les futurs ouvriers comme Mohamed.
Au début, on ne connaissait pas grand-chose à la soudure. Mais le formateur a fait preuve de beaucoup de pédagogie pour que l'on puisse acquérir les techniques de soudure. J'ai choisi Renault parce que c'est une grande société et aussi par passion pour l'automobile.
Mais pour être définitivement embauché, les candidats doivent valider et maîtriser les standards de fabrication imposés par Renault. Fatem Salah Ouzaoui, la directrice de l'IFTA.
Et là-bas, il y a une horloge où il y a du vert, du rouge, du jaune et du bleu. S'il dépasse le vert, ça veut dire qu'il est un peu lent. Il va falloir qu'il retravaille, qu'il s'entraîne jusqu'à ce qu'il fasse l'opération dans le temps de cycle de Renault, c'est-à-dire comment on travaille en chaîne. Donc chaque opérateur a un temps de cycle pour qu'il fasse l'opération. Il ne faut pas qu'il le dépasse. Donc il s'entraîne jusqu'à ce qu'il soit dans les temps nécessaires.
Le choix de Tanger est aussi lié à son port. Situé à 14 km des côtes espagnoles, c'est un véritable hub entre l'Europe et l'Afrique pour Renault, qui exporte 95% des véhicules produits au Maroc. Basé dans la zone franche, le constructeur bénéficie également d'avantages fiscaux non négligeables. Rachid Ouari, le directeur du port de Tanger Med.
Il y a une loi marocaine qui s'appelle la loi 1994 des zones franches. Elle se résume par le fait que pendant les 5 premières années, il n'y a pas d'impôt sur la société. Et puis ensuite, ça passe à environ 9% pour le reste des 20 ans. Il n'y a forcément pas de TVA puisque la marchandise reste en zone franche et repart de la zone franche. Donc forcément, il n'y a pas de TVA. Et puis quelques autres avantages fiscaux liés au timbre, à l'enregistrement, ce genre de choses.
Si Renault Tanger a déjà produit plus d'un million de véhicules depuis son ouverture, son nouveau défi sera de fabriquer avec ses sous-traitants plus de la moitié de ses pièces produites localement.
Hakim Kasmi à Tanger pour France Culture. Et puis Londres réclame des explications à Moscou. Selon la première ministre britannique Theresa May qui vient de s'exprimer, il est très probable que la Russie soit responsable de l'empoisonnement de Sergueï Skripal. L'ancien espion russe et sa fille ont été empoisonnés par une substance toxique de degré militaire d'un type développé par la Russie, indique Londres. La météo, encore de la pluie demain sur la moitié nord et des averses qui s'attarderont sur le nord-est, mais le sud connaîtra de belles périodes ensoleillées. Il fera entre 3 et 9 degrés demain matin, de 8 à 13 l'après-midi jusqu'à 17 en bord de Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.